Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Au lendemain de la victoire de Joe Biden, Donald Trump refuse toujours la défaite. Toujours pas d'appel aux vainqueurs, comme le veut pourtant la tradition. Quelques tweets pour dénoncer un scrutin volé et des fraudes, mais pas de prise de parole officielle pour acter le résultat du vote. Alors même que les États-Unis sont censés entrer désormais dans une phase de transition. Alors la communauté internationale, à l'exception toutefois de la Chine et de la Russie, a validé cette élection et félicité Joe Biden, mais le déni de Donald Trump et la guérilla qu'il veut mener devant les tribunaux plonge une nouvelle fois le pays dans une situation inédite. Pendant ce temps-là, le duo Joe Biden-Kamala Harris avance ses pions malgré tout, prépare son arrivée aux responsabilités et ses premières décisions. Alors qui peut obliger Donald Trump à quitter la Maison-Blanche? Qui a les pouvoirs aux États-Unis à partir de maintenant? Quel est le programme de Joe Biden? Qui peut faire partir Trump? C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Nicole Bacharan, vous êtes politologue, historienne, spécialiste des États-Unis. Citons ce soir votre ouvrage First Ladies avec Dominique Simonet, publié aux éditions Tempus. Corentin Célin, vous êtes historien, spécialiste des États-Unis, professeur en classe préparatoire au lycée Carnot à Dijon. Vous êtes par ailleurs chroniqueur pour le site d'information Les Jours. Avec nous en direct de Washington ce soir, Sonia Dridi, vous êtes correspondante de France 24 à Washington. Votre biographie Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump, est publiée aux éditions du Rocher. Enfin, Benjamin Haddad, vous êtes politologue, directeur Europe du think tank Atlantic Council. Votre ouvrage Le paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes est publié chez Grasset. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Il n'a toujours pas reconnu sa défaite, Nicole Bacharan.
Il n'est pas obligé de le faire.
D'accord.
La tradition veut qu'il le fasse et même qu'il invite le président élu à la Maison-Blanche pour un premier entretien. Il n'est pas obligé non plus de le faire.
Certains ne l'ont pas fait par le passé ?
Pas que je sache. Je regarde Corentin.
Il n'est pas obligé de le faire, mais ça se fait depuis des années.
Voilà, ça se fait depuis toujours.
D'accord.
Mais ça n'est pas dans la loi. Par ailleurs, l'équipe Trump fait des recours judiciaires, et on a rajouté quelques-uns ce matin, pour contester les résultats de certains États. Ils en ont le droit. C'est parfaitement légal. La seule chose, c'est que ces recours sont assez faibles pour l'instant, parce que ici ou là, on pourrait revenir ensemble, les juges demandent des preuves que des bulletins pas valables ont été comptés, que les identités des électeurs n'aient pas été vérifiées, etc., etc. Et les juges disent, même pour l'instant, il n'y a pas de preuves. N'oublions pas une autre chose, c'est que faire des recours judiciaires, ça coûte cher. Et que l'équipe Trump n'a plus d'argent. Ils font appel aux donateurs, ils n'ont pas l'air de se précipiter. Par ailleurs, il faut de très bons avocats, et moi j'ai regardé dans le détail, les avocats qui acceptent de porter ces recours, ce n'est pas le top de la liste, c'est vraiment les seconds et troisièmes couteaux. Donc ces recours sont légaux, ils vont être difficiles à faire vivre assez longtemps.
Comment est-ce que vous analysez la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, avec un président Trump et un président élu Joe Biden, mais un président Trump, et on va aller voir ces images qui a passé son week-end à jouer au golf, alors que les félicitations tombaient du monde entier, on va le voir, évidemment de tous les pays européens et du reste de la planète, et un président Trump qui est dans une sorte de déni, en tout cas qu'il considère qu'il a encore des cartes à jouer.
On peut aussi considérer qu'il est dans une vraie crise psychologique sur sa vision de lui-même. Moi, j'ai quand même étudié sa carrière de promoteur, de star de télé, de président, forcément, et c'est quelqu'un qui a toujours nié ses échecs, et même qu'à chaque fois dit « j'ai gagné ». Il a dit « mais à maintes reprises, je n'ai jamais connu d'échec ». Or là, il a un échec énorme, il faut quand même bien le dire, même si on y reviendra certainement,
oui, oui.
Il a eu un score de voix colossal.
70 millions de voix.
Voilà, c'est pas rien, ça veut dire vraiment des choses sur le pays, mais bon, l'échec est patent, il a perdu et à la face du monde. Et la vision grandiose qu'il a de lui-même, il peut pas la raccorder à cet échec. Donc je pense qu'il est effectivement dans le déni et peut-être la négociation entre lui et lui d'un moyen de sortir de ce pétrin et de retourner dans un monde réel dont il ne veut pas.
Sonia Dridi, on a beaucoup entendu ici qu'il avait été lâché, qu'il était seul à la Maison-Blanche. Et puis Melania Trump a fait une communication pour expliquer en gros qu'il fallait compter, enfin, qu'elle soutenait d'une certaine manière toujours son époux. Dans quelle situation est-il à la Maison-Blanche? Avec qui est-il à la Maison-Blanche?
Alors, je crois qu'il y a deux sons de cloche à la Maison-Blanche. Il y a des conseillers comme son avocat Rudy Giuliani qui lui conseille de se battre jusqu'au bout, comme ses fils aussi. L'un de ses fils a même parlé de guerre totale. Et puis, il y a d'autres conseillers, parfois informels, comme l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui lui disent qu'il faudrait reconnaître la défaite, ou en tout cas qui même disent publiquement qu'il n'y a pas de preuve de fraude. Selon CNN, hier, il y a même son gendre, Jared Kushner, qui serait en train de lui dire qu'il faudrait peut-être accepter le fait qu'il ait perdu. Donc on sent un Donald Trump qui rumine, qui tweete depuis la Maison Blanche. Je pense que ce qui est important pour Donald Trump, c'est de ne pas perdre la face. Donc je crois qu'il va se battre jusqu'au bout, notamment sur le plan juridique. Hein. Mais je ne pense pas que sur le fond, au final, ça posera de vraies difficultés pour la passation de pouvoir. Ce qu'on sait, c'est que il y a une agence qui est censée acter officiellement la victoire de Joe Biden, qui a été annoncée par les médias. À sa tête, il y a Emily Murphy, qui est une proche de Donald Trump, qui a été nommée par Donald Trump, et pour l'instant, elle refuse de déclarer officiellement que c'est Joe Biden le vainqueur de l'élection.
Corentin Célin, sur cet aspect-là.
Oui, c'est un aspect qui est aujourd'hui essentiel parce qu'en fait, il y avait une tradition d'au moins une soixantaine d'années depuis le développement de la télévision. Se rappeler aussi que c'est une élection qui a lieu sur beaucoup de fuseaux horaires. C'est un pays immense, donc où les dépouillements prennent beaucoup de temps. Donc la tradition, c'était quoi? C'était, il y a une nuit électorale. À la fin de cette nuit, peut-être un petit peu plus tard, mais les médias, et en particulier l'Associated Press, déclarent un président vainqueur. Le rival l'appelle, concède la défaite et ensuite va concéder devant ses partisans. Et à ce moment-là, l'agence en charge de la transition depuis la loi de 1963, qu'évoquait Sonia Dridi, reconnaissait le vainqueur, mais sur la base des projections de médias, et la transition sur fonds publics s'engager. Le problème, c'est que là, d'une part, on n'a pas de concession de Donald Trump, et Emily Murphy, qui a été nommée à la tête de la GSA, donc cette fameuse agence, par Donald Trump, elle ne peut pas reconnaître qu'il y a victoire de Joe Biden.
Donc ça veut dire qu'on ne peut pas amorcer la transition?
Non, la transition, pour l'instant, est bloquée, en tout cas la partie de la transition qui est amorcée sur fonds publics et qui est réglementée par la loi de 1963, et ça va être un vrai problème, parce qu'à un moment donné, en particulier sur la question de l'accès aux bâtiments fédéraux, il faut bien que les équipes de Joe Biden puissent pénétrer les bâtiments fédéraux, rencontrer les équipes sortantes, faire une transition.
Pour l'instant, elles ne peuvent pas le faire.
Non.
Si elles souhaitaient le faire, ça fait deux jours, donc elles ont peut-être un petit peu de marge, mais pour l'instant, elles n'auraient pas la possibilité de le faire.
Non, pas à plein. Il y a eu, évidemment, comme avec tout candidat dans des deux grands partis, il y a eu un pré-accord qui a été passé entre la GSA, un pré-mémorandum entre le GSA, cette fameuse agence dont on parle, et la campagne Biden. Mais justement, on attend maintenant la lettre de Emily Murphy qui dit « Je reconnais Joe Biden comme vainqueur ». Et elle dit que pour l'instant, elle ne peut pas faire cette lettre parce que pour elle, l'élection est contestée.
Combien de temps, Benjamin Haddad, Donald Trump peut-il bloquer la transition? C'est intelligemment fait, si on peut le dire comme ça, vu de la France, parce que c'est une période où, au fond, il y a un changement d'administration, où les choses se mettent en place avant de prendre les responsabilités.
Alors, il faudra déclarer un vainqueur à un moment à partir de début décembre. Donc, on l'a dit, Donald Trump a le droit de porter des recours, a le droit de demander des recomptes. D'ailleurs, un certain nombre de républicains qui ont reconnu la victoire de Joe Biden, comme l'ancien président George W. Bush, qui a appelé Joe Biden hier, dans son communiqué dit « il y a un processus légal, on a le droit d'aller devant les tribunaux demander des recomptes ». Mais effectivement, à un moment, il faudra qu'il y ait un président et il faudra que cette transition démarre. C'est très important, en particulier dans une période de crise sanitaire comme la traverse les États-Unis, de pouvoir avoir cette transition. Moi, ce que je trouve très inquiétant, c'est à plus long terme. C'est vrai que je partage l'analyse de Sonia Dridi, je ne suis pas inquiet pour la passation de pouvoir. Si Donald Trump avait envie de s'accrocher au tapis du bureau ovale, les militaires viendront l'en déloger. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a ses partisans, une partie de la population, qui continue à entendre, à écouter, et il y aura une vraie crise de légitimité pour le prochain président. Et c'est ce qu'on voit déjà depuis plusieurs administrations. Il faut se rappeler que Donald Trump, il a émergé en politique en contestant la naissance de Barack Obama aux États-Unis, en disant qu'il était né au Kenya. C'était une théorie du complot raciste qui était très populaire au sein de l'extrême droite. Alors, je ne mets pas sur le même niveau, mais c'est vrai que les démocrates, ces dernières années, ont aussi contesté la légitimité électorale de Donald Trump en agitant notamment la question de l'ingérence russe. Et on risque d'avoir un Donald Trump qui va continuer à se promener dans le pays, parler à ses partisans et refuser de reconnaître la victoire de Joe Biden dans les prochaines années. Je me demande vraiment quel type d'impact ce type de théorie du complot peut avoir sur le mandat qui s'ouvre. Je pense que cette politique de la terre brûlée est dangereuse pour la démocratie américaine.
Et nous y reviendrons dans un instant, à juste titre, hein, ce que vous expliquez, Benjamin Haddad, parce qu'on va voir que ses supporters sont toujours aussi mobilisés dans cette Amérique qui est fracturée. Juste, Nicole Bachahan, qui a les pouvoirs aujourd'hui, à l'heure où nous parlons? Je parle des pouvoirs militaires. Qui a les notes des services secrets américains? Est-ce qu'il a encore, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Donald Trump, un pouvoir de nuisance? Est-ce que quand il appuie sur les boutons, est-ce que ça marche encore?
Oui, ça marche encore. Donald Trump est le seul président en charge jusqu'au 20 janvier à midi. D'accord. Donc il a toutes les commandes du pouvoir. Il peut signer des décrets, il peut prendre des règlements, il ne peut pas obtenir de loi au Congrès parce que le Congrès est ajourné et il faudrait qu'il le rappelle pour une urgence. Ça paraît assez peu probable. Donc Joe Biden n'a pas de pouvoir. D'accord. Par contre, il y a quand même des éléments de la transition qui sont automatique. Joe Biden reçoit depuis quelques jours le Presidential Daily Brief, donc le rapport quotidien des services de renseignement. Il y a tous les jours un responsable des services qui vient le voir et qui lui donne le même rapport D'accord. qu'à Donald Trump. Tous les jours. Ça, c'est pour préparer évidemment la continuité et la sécurité. Mais Donald Trump a un pouvoir de nuisance considérable. Joe Biden, lui, n'a pas de pouvoir. Il peut préparer son entrée à la Maison-Blanche, et il peut le faire, si la Maison-Blanche lui refuse, les fonds publics, exclusivement avec des fonds privés. Il n'y a pas d'obstacle à cela, donc ça va arriver de toute façon, mais ça peut être compliqué.
Benjamin Haddad disait, s'il s'accroche au tapis, c'est l'armée qui viendra le déloger. C'est un scénario qu'on ne peut pas imaginer.
Non, je ne l'imagine pas, mais au moins ce serait ce qu'on appelle le Secret Service, la protection des hautes personnalités.
Et lui dirait, il ne faut pas rester là, monsieur.
Voilà, monsieur, il faudrait quitter le bureau.
Allez, à part la Chine et la Russie, les grandes puissances étrangères n'ont pas attendu longtemps avant de féliciter le 46e président des États-Unis, Joe Biden, célébré également par ses supporters dans les grandes villes américaines, des scènes de liesse qui tranche avec la solitude d'un Donald Trump lâché par les siens et qui a passé le week-end à jouer au golf et peut-être à préparer sa riposte. Juliette Perrault, Arnaud Fora avec Émilien David.
Un feu d'artifice et une foule de supporters pour fêter la victoire. Rassemblés pour la première prise de parole de Joe Biden, les démocrates exultent dans le Delaware. À commencer par la future vice-présidente des États-Unis.
And it is now my great... J'ai l'immense plaisir de vous présenter le nouveau président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden.
Arrivé comme un sportif du plus vieux président élu des États-Unis, Joe Biden, 77 ans, savoure.
Le peuple a parlé. Et il nous a donné une victoire claire, une victoire convaincante. Je suis honoré de la confiance que vous placez en moi. Je promets d'être un président qui ne cherche pas à diviser, mais à unifier.
À Philadelphie, les supporters démocrates sont aussi sortis dans la rue pour sabrer le champagne. Après 4 ans de présidence Trump, beaucoup ont un sentiment de délivrance.
Oh, so excited. Je suis folle de joie. C'est un jour incroyable. C'est super.
C'est beau. La démocratie est de retour et enfin, on sent que l'on va se reconnecter au monde.
Le changement que ce pays mérite commence maintenant. Il reste beaucoup de travail à accomplir, mais c'est un bon début.
Loin des foules heureuses, l'indifférence de Donald Trump. En pleine partie de golf lorsque les médias américains annoncent la victoire de son adversaire. Une victoire qu'il refuse toujours de reconnaître.
Depuis quand est-ce que ce sont les médias qui décident qui sera notre prochain président?
Donald Trump promet de lancer une offensive judiciaire contre les prétendues fraudes de l'élection. Il souhaite un recomptage des voix, convaincu d'être le vrai gagnant. Mais le leader républicain perd peu à peu le soutien de son parti.
de grandes figures prennent leur distance à l'image de l'ancien candidat à la Maison-Blanche, Mitt Romney.
Il a parfaitement le droit d'appeler à un recomptage des voix. Les écarts sont très serrés. On parle de 10 000 voix d'écart à certains endroits, c'est même parfois moins. Mais si, comme attendu, ça ne change rien, il devra accepter les résultats.
Mitt Romney a lui reconnu la victoire de Joe Biden, tout comme une autre figure du parti, l'ancien président des États-Unis, George Bush.
Le peuple américain peut avoir confiance. Cette élection a été juste. Son intégrité sera confirmée. Son résultat sera clair.
À l'exception de la Chine et de la Russie, le résultat a également été reconnu par les dirigeants du monde entier.
Je voudrais féliciter Joe Biden et Kamala Harris.
Emmanuel Macron a salué la victoire du candidat démocrate dans un tweet.
Les Américains ont désigné leur président. Félicitations à Joe Biden et à Kamala Harris.
Et la chancelière allemande se dit déjà prête à travailler avec le nouveau gouvernement américain.
Les États-Unis d'Amérique et l'Allemagne en tant que membres de l'Union européenne doivent être solidaires pour affronter les grands défis de notre temps. Côte à côte, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, la lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences.
Ces grands chantiers attendent maintenant Joe Biden, qui va devoir également relancer une économie à la peine et surtout rassembler une Amérique profondément divisée.
Nous allons revenir naturellement sur les chantiers qui attendent Joe Biden, mais d'abord cette question, est-ce que le clan Trump soutient toujours Donald ?
Ouh là là, j'y mettrai pas ma main à couper, si j'ose dire. Les plus proches, certainement ses enfants, sa femme qui doit négocier elle aussi son retour à New York dans des bonnes conditions. Maintenant, Donald Trump est un homme qui n'a pas d'amis. Il n'a que des affidés, il n'y a que des opportunistes autour de lui qui ont vu soit à travers Donald Trump le moyen de pousser leurs priorités politiques, soit de pousser leur carrière. Ils ne vont pas mourir pour lui. Il traite trop mal les gens, tout simplement. Il les traite mal, il les insulte, il leur crie dessus, il les humilie. Et là, à la face du monde, on voit, on ne peut pas échapper au fait que c'est quand même quelqu'un qui a des difficultés avec le monde réel. Donc je crois qu'il y a quand même des départs du côté de la Maison-Blanche. On les voit arriver.
Du côté de la Maison-Blanche et du côté des Républicains ou pas, Sonia Dridi? En préparant cette émission, je voyais la déclaration du sénateur Lindsey Graham qui disait « Ne concédez rien, monsieur le Président, battez-vous ». Il reste encore quelques Républicains qui attendent de Donald Trump qu'il conteste le scrutin.
Oui, tout à fait. Je parlais tout à l'heure de l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani. Il y a aussi Lindsey Graham, ce sénateur républicain qui a été réélu, qui est très aux opportunistes et qui s'est beaucoup servi de Donald Trump pour sa réélection au Sénat. Et j'imagine au sein de l'administration des personnes comme Stephen Miller, qui est un proche conseiller. Donc je pense quand même dans son entourage, il y a beaucoup de personnes qui ont intérêt à ce que Donald Trump se batte jusqu'au bout. Mais si on regarde du côté des républicains dits modérés, ou plus qui font plus partie de l'establishment, c'est vrai que on commence à voir certains, par exemple même Marco Rubio qui a dit, il a fait un tweet pour dire avant le résultat officiel, que c'était normal de continuer de dépouiller tous les bulletins, donc allant dans le sens de Joe Biden, mais que c'était aussi légal de contester le résultat, allant dans le sens de Donald Trump. Mais donc, il y a aussi le gouverneur du Maryland qui est un républicain et qui a dit que ce que disait Donald Trump était en train de heurter le processus démocratique. Donc, je pense que dans ses soutiens très proches, dans les jusqu'au boutistes et ceux qui, finalement, se sont beaucoup servis de Donald Trump pour avoir un emploi ou le conserver, on le force aller jusqu'au bout, mais je pense que la classe politique en général, en plus il faut dire que quand même les républicains au Sénat et au Congrès connaissent très bien Joe Biden, beaucoup ont déjà travaillé avec lui, donc je pense que beaucoup vont finir par à un moment dire publiquement, ou en tout cas commencer à travailler avec Joe Biden.
Ça s'apaise, Corentin Célin. On se pose quand même ce soir la question de qui peut faire partir Donald Trump. Est-ce que le fait qu'il soit lâché par son parti, même si on sait qu'il s'est fait sans le Grand Old Party, comme on dit, sans les républicains, Donald Trump, qui ensuite il a mis à sa main, mais est-ce que ça peut peser ?
Alors, ce qui peut peut-être davantage peser, il y a un autre clivage, c'est aussi les républicains qui sont aux responsabilités dans les États contestés. Dans les États où il y a des contestations de l'équipe Trump, où l'équipe Trump dit qu'il y a de la triche. Alors, je prends un exemple concret. En Géorgie, hein, qui est un État du Sud, on le sait, qui est extrêmement disputé, les responsables, le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, sont tous des républicains. Et là, on a une déclaration, il y a une heure, du lieutenant-gouverneur qui dit nous, on ne voit pas de tricherie pour l'instant. Et donc,
oui, ça pèse.
Ils sont très gênés aux entournures. Ils disent, bon, il faut compter. Alors, ils reprennent les éléments de langage. Il faut compter tous les bulletins, compter jusqu'au bout, etc. Mais ils disent, pour l'instant, ce lieutenant-gouverneur de Géorgie, il a dit, mais pour l'instant, nous, on ne voit pas de tricherie. Et donc, ça pèse. Parce qu'à un moment donné, il y a le mur du réel, le mur des faits. Je veux dire, soit il arrive à prouver les tricheries, Trump et son camp, s'il n'arrive pas à les prouver et à les faire reconnaître en justice, ça devient problématique, même pour les républicains.
Alors, ce que dit son porte-parole de campagne, il dit qu'il pourrait faire des meetings pour rassembler les soutiens de Donald Trump et brandir à cette occasion-là les certificats de personnes décédées qui ont voté.
Oui, mais encore une fois, Donald Trump est extrêmement populaire auprès de sa base. Il a fait un score très élevé à cette élection, c'est un fait. Donc il peut jouer sur la Vox Populi, il peut jouer sur l'appel au peuple. Maintenant, normalement, ça se tranche en justice, c'est devant les tribunaux. Et pour l'instant, le problème qu'il a, c'est que même devant des juges qu'il a nommés, il n'est pas arrivé à faire valoir des éléments de fraude. Beaucoup de juges lui ont dit « donnez-nous des preuves ».
Benjamin Haddad, il a jusqu'au 18 décembre pour faire valoir ses droits et démontrer qu'il y a eu des fraudes.
Voilà, il a jusqu'au 18 décembre, il peut demander des recomptes dans les États où ça a été très serré. C'est vrai que dans un certain nombre d'États clés, le Michigan, le Wisconsin, la Géorgie, l'élection se joue à très peu, même s'il faut rappeler évidemment que Joe Biden remporte largement le vote national, mais dans les États clés, c'était serré. Il peut y avoir des cas assez marginaux, visiblement, de fraude ou d'erreur. On parle d'un logiciel qui aurait mal compté quelques voix dans le Michigan, mais ça a déjà été corrigé. Donc vous avez raison de le rappeler. On voit des leaders républicains de l'establishment, Mitt Romney, George W. Bush, bon, qui n'est pas des Trumpistes, qui ont déjà reconnu l'élection et félicité Joe Biden. C'est vrai que le dilemme pour les autres républicains, c'est le même que celui depuis 4 ans. Donald Trump est extrêmement populaire au sein de sa base. Il a accru son score chez les républicains. 93% des républicains se sont déplacés pour voter pour lui. Et c'est vrai que depuis 4 ans, on a vu au Sénat, à la Chambre des représentants, les gouverneurs républicains soutenir le président Trump, y compris des gens qui s'étaient opposés à lui pendant la primaire, qui avaient dit qu'il était inapte à gouverner le pays, qui se sont vraiment alignés derrière lui. Alors maintenant, c'est le moment de vérité, c'est le tournant. C'est là qu'on va voir les gens le lâcher, d'autant plus que pour les républicains conservateurs plus classiques, la Cour suprême est à majorité conservatrice, 6 contre 3, avec la nomination d'Amy Coney Barrett ces dernières semaines. Le Sénat pourrait rester républicain, on le saura en janvier, puisqu'il reste 2 élections en Géorgie, mais en tout cas, au mieux, ce sera 50-50 pour les démocrates. Donc finalement, les républicains aujourd'hui sont en mesure de pouvoir continuer à bloquer l'agenda de Joe Biden et de faire obstruction s'ils le veulent. Donc ils ont aussi moins besoin de la Maison-Blanche pour continuer à pousser leur propre politique.
C'est ça le scénario que vous privilégiez, Nicole Bacharan, c'est-à-dire des défections petit à petit dans son entourage proche, des gens qui prennent la parole publiquement dans le parti des Républicains qui, à un moment donné, l'obligent à reconnaître sa défaite et à trouver une porte de sortie.
Oui, je pense que ces voix-là, elles vont se multiplier, mais il faut quand même reconnaître l'attentisme extrême ou la lâcheté, on appelle ça comme on veut, de la plupart des élus républicains au Congrès. Ils ne disent rien. Ni battez-vous, monsieur le président, ni Joe Biden a gagné. Ils attendent.
Pourquoi ?
Ils veulent pas fâcher le grand chef qui est encore chef. Ils ne veulent pas non plus se griller pour l'avenir. Et sur la question des recours que l'on évoque tous ensemble, il faut quand même aussi se souvenir que il faudrait qu'il y ait non pas simplement un, mais 2 ou 3 ou 4 États dont le résultat soit inversé pour que Donald Trump puisse dire qu'il a gagné l'élection.
C'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que le scrutin peut être invalidé à partir du moment où il y a un État qui aurait été décompté avec des voix qui seraient frauduleuses ?
À partir de
combien d'États vous voyez ce que je veux dire,
oui,
à partir de quand est-ce qu'à un moment donné il peut contester officiellement et remettre en cause le scrutin?
Alors le scrutin dans son ensemble, ce qui peut être mis en cause si un État changer sa majorité, si j'ose dire, ce serait le vote des grands électeurs, le nombre de grands électeurs. Mais là, l'avance de Joe Biden, elle est vraiment large au collège électoral. Et donc, il faudrait imaginer tout un tas de combinaisons d'États, mais il faudrait un retournement dans 4 ou 5 États. Ça paraît totalement invraisemblable. Et je voudrais dire un mot sur l'appel au peuple, les meetings. Alors, est-ce que l'équipe de campagne et l'équipe de Donald Trump va lui organiser des meetings ? C'est possible, ça peut arriver. Mais ça peut être aussi juste un moyen de calmer le boss qui est en pleine crise. Parce que pendant les 3 premières années de son mandat, chaque fois qu'il avait un coup de mou, chaque fois qu'il était en rage contre les médias, on lui organisait un meeting. Parce que là, il était heureux. C'est quelque chose qu'il a découvert dans la campagne en 2015-2016, ce one-man show où il a une énergie dingue, où ça dure 1h30, 2h, il fait un sketch avec toutes sortes de passages obligés, il est au milieu de gens qui l'adulent et il est heureux. Donc est-ce qu'on lui organise une petite thérapie ? Est-ce qu'on l'annonce qu'il aura une thérapie ? Ou est-ce que réellement les meetings vont exister avec volonté de faire pression, mais sur qui ? C'est-à-dire les juges, je ne pense pas qu'ils soient accessibles à ce genre de pression. Ils cherchent des preuves.
Sonia Dridi, est-ce qu'il a, pendant la campagne ou avant, lorsqu'il était à la Maison-Blanche, Donald Trump, évoqué l'après, l'après-Maison-Blanche ?
Alors, il l'a évoqué parfois de façon, enfin, en disant que il savait très bien qu'il était à la traîne dans les sondages et lors d'un meeting, par exemple, il a dit « Voilà, si je perds, peut-être que je partirai à l'étranger. » Il a plusieurs fois, entre guillemets, blagué sur son éventuelle défaite. Donc, on sentait de toute manière que Donald Trump était conscient que peut-être il n'allait pas remporter l'élection. Et donc, il a plusieurs fois évoqué son éventuel départ, mais on n'a pas de piste sur ce qu'il pourrait effectivement faire si une fois qu'il n'est plus au pouvoir. Certains disent qu'il va retourner un peu dans ce qu'il faisait avant, éventuellement, alors peut-être pas de la télé-réalité, mais tout ce qui concerne les médias. À un moment, d'ailleurs, en 2016, on disait que s'il n'allait pas remporter l'élection, il voulait créer une chaîne Trump. Donc, voilà, je pense qu'il y a une possibilité qu'il retourne un peu dans cette atmosphère, dans ce milieu médiatique. Et comme le disait Nicole, il a vraiment découvert avec l'élection de 2016 la joie que lui apportaient les meetings, ça le revigorait. Alors, il n'hésite pas en privé à critiquer ses partisans à qui, d'ailleurs, il disait qu'il préférait ne pas serrer la main et que donc, finalement, le Covid, c'était pas plus mal pour ça. Mais il est très fier d'avoir réussi De continuer à mobiliser les foules. Et c'est vrai que c'est un showman, et ça, il le fait très bien.
Corentin Célin, il paraît qu'il pourrait être inquiété par la justice au sortir de la Maison-Blanche.
Oui, il a énormément de procédures qui sont lancées contre lui, qui ne sont pas forcément très connues en France, parce qu'on s'était beaucoup polarisé sur l'investigation russe. Mais il a, par exemple, sur la gestion de sa fondation caritative, qui est... à laquelle l'État de New York s'intéresse de très près. Il a plutôt des affaires financières. C'est d'ailleurs pour ça que le procureur de New York, de l'État de New York, avait voulu récupérer ses feuilles d'impôt, et qui cherche toujours à récupérer ses feuilles d'impôt, pour savoir quel est l'état de ses finances et s'il n'y a pas eu des trucages aussi par rapport à ses déclarations fiscales. Donc ça, c'est effectivement un enjeu pour la post-présidence. Mais ce qui revient quand même très souvent, et comme en 2016, c'est cette idée, et qui serait tellement conforme à ce qu'il est et ce qu'il a toujours été, c'était de fonder une nouvelle télévision. Ce qui serait assez conforme d'ailleurs, parce qu'on voit qu'il n'est pas du tout content de ce qu'est devenu Fox News, où les journalistes ont repris un petit peu le dessus. Et on parle de plus en plus souvent d'une télévision Trump, où il pourrait emmener avec lui tous les éditorialistes de Fox News, qui sont ses principaux soutiens, que ce soit Carlson, Hannity, etc. Ça, c'est tout à fait envisageable, parce qu'il reste avant tout un homme de télé et de médias, avant toute chose.
Juste pendant cette période-là, est-ce que les démocrates font pression publiquement pour demander à Donald Trump de reconnaître sa défaite, ou est-ce qu'ils l'ignorent ?
Ils l'ignorent, absolument. D'accord. Ils sont hyper prudents. Vous avez remarqué que Joe Biden n'a pas prononcé son nom. Dans les fois où il est intervenu publiquement, il n'a rien dit sur les recours judiciaires, rien. Il est élu, il avance, il fait ce qu'il a à faire, il annonce sa prochaine intervention aujourd'hui consacrée au Covid, à la lutte contre la pandémie. Il est hyper neutre là-dessus. Voilà, il y a la Maison-Blanche, leur problème. Lui, c'est le président élu et il poursuit son chemin.
Mais juste avant d'aller au deuxième reportage, vous imaginez ce scénario durer Nicole Bacharan, ou est-ce que vous imaginez que dans 2-3 jours, à un moment donné, sous la pression internationale des Américains eux-mêmes, de cette mobilisation de ces foules qu'on a vues dans les grandes villes américaines, que Donald Trump va devoir trouver une porte de sortie? Comment est-ce que vous appréciez la situation des jours prochains, à votre avis?
Je pense que c'est quelqu'un qui est complètement fermé à ce qui n'est pas lui-même. Ça, en point de vue, ça a toujours été moi d'abord. Les félicitations internationales, particulièrement des Européens, qu'il vomit. Oui. Les foules dans les rues qui se réjouissent de l'élection de Joe Biden. Tout cela m'est lui est radicalement indifférent. Par contre, l'entourage le plus proche qui voudrait qu'il préserve un petit peu son image pour l'histoire, et ce qui peut avoir de l'influence. Donc, 3 jours, 10 jours, 3 semaines, honnêtement, personne ne peut le dire.
Alors, il y a cette Amérique qui a manifesté sa joie depuis samedi dans les grandes villes américaines, et puis celle plus silencieuse, qui ne veut pas croire à la défaite de Trump. Nos équipes se sont rendues en Pennsylvanie, près de Lancaster, dans une zone rurale, où l'arrivée de Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris suscite de nombreuses craintes, vous allez le voir, Juliette Perrault, Arnaud Fora et Magali Lacroze.
À l'ouest de Philadelphie ce week-end, le soleil inonde la ville de Lancaster. Ici, on a voté Trump majoritairement. Heather ne veut pas croire à son Amérique démocrate. Pour elle, rien n'est encore joué, même si le vent a déjà tourné.
C'est la première fois qu'on a mis des drapeaux Trump à la maison. Et on nous en veut. Tous les jours, il y a ce type qui passe devant chez nous en me disant que je suis raciste et tout ça.
Heather ne sait pas grand-chose sur Joe Biden. Le seul reproche qu'elle peut lui faire, c'est sur sa colistière Kamala Harris, bien trop à gauche pour elle.
C'est pas tant Biden qui me fait peur, c'est Miss Harris. Les choses qu'elle a faites avant... Elle est très, très à l'extrême gauche. L'assurance maladie pour tous, les accords sur le climat, tous ces trucs, elle est pour et je ne le suis pas.
À la maison, la télévision reste allumée toute la journée. Depuis quelques jours, les nouvelles sont mauvaises. Mais rien n'y fait. Tant que le président Trump n'aura pas admis sa défaite, Heather trouvera toutes les raisons d'y croire.
Je ne crois pas au processus de vote. Ils ont empêché à Philadelphie que les observateurs républicains soient là pendant qu'ils comptaient. C'est pour ça qu'on se demande pourquoi ils ont fait ça. On sait que Philadelphie est bien connue pour les fraudes électorales.
À quelques kilomètres de là, dans la permanence républicaine de Lancaster, un peu plus déserte que d'ordinaire, c'est l'ambiance des mauvais jours. Le seul qui accepte de nous parler, c'est Dale Murray. Il a toujours voté républicain, mais cette fois, il ne comprend pas que son champion puisse être éliminé.
Trump a eu plus de voix qu'aucun républicain dans l'histoire. Il a eu plus de votes de minorité qu'aucun républicain en 60 ans. Et Biden a fait moins bien qu'Hillary Clinton partout. Sauf à Philadelphie, à Milwaukee, à Détroit et Atlanta. Et devinez quoi, c'est là où il continue de compter après l'élection.
Pour les Trumpistes de Pennsylvanie, l'incompréhension fait place à l'inquiétude. À l'entrée de sa brocante, Katie King tient à nous montrer son attachement viscéral au Second Amendement, le droit constitutionnel au port d'armes, qu'elle craint de perdre avec Joe Biden.
Nous sommes un pays libre, supposé libre. Nous sommes supposés pouvoir faire ce qu'on veut. Que les démocrates ne pensent pas qu'ils pourront nous prendre nos armes. Ils sont anti-armes et anti-police parce qu'ils veulent couper les budgets de la police.
Ce sera un problème pour vous?
Comment on va faire si on a une urgence?
Katie vend des antiquités depuis 10 ans ici. Pour les amateurs du passé et pour les touristes qui viennent voir la communauté Amish à quelques pas du magasin, toute une ambiance. Mais en politique, Katie a beaucoup plus de mal avec les longues carrières, comme celle de Joe Biden, qu'elle décrit comme le ferait l'actuel président américain.
Il a un problème de démence. On dirait que c'est ça. Il est toujours en train d'oublier des trucs. Et puis, il a été en politique au Sénat depuis 47 ans quand même. Il devrait y avoir un renouvellement, non?
Selon Fox News, Donald Trump pourrait reprendre ses meetings dans les États où il conteste les résultats. Ses électeurs de Pennsylvanie n'attendent que ça.
Corentin Célin, le trumpisme va-t-il et peut-il perdurer après le départ de Trump à la Maison-Blanche?
Oui, c'est ce qu'on peut penser. Oui, parce qu'il a durablement, et on l'a très bien vu dans ce reportage, il a durablement impacté ce parti qui a désormais sa ligne nationaliste, identitaire, anti-système. Et surtout, beaucoup d'élus républicains, aujourd'hui, au Congrès, ont été élus pendant les années Trump, avec sa bénédiction. Il y a toute une génération de jeunes élus Trump, extrêmement bien charpentés idéologiquement, très diplômés, et qui représentent l'avenir, si jamais Donald Trump devait s'en aller. Le sénateur Hawley du Missouri en particulier, le gouverneur de Floride, DeSantis. Et ces personnes-là sont là pour rester, seront, si jamais Donald Trump ne se représentait pas en 2024, s'il était battu, eh bien, ce seront peut-être les futurs potentiels candidats républicains. Donc oui, le trumpisme est parti pour rester. Et le Parti républicain, aujourd'hui, Benjamin Haddad le disait très bien tout à l'heure, il est quasi uniquement trumpiste. Et on le voit bien dans ce reportage.
Sonia Dridi, on entendait dans ce reportage un trumpiste qui disait il n'a jamais fait autant de voix, 70 millions d'Américains, 71, je crois, ont même voté Donald Trump. C'est à ceci que Joe Biden va aussi devoir parler dans les jours qui viennent.
Oui, tout à fait. Et Joe Biden le sait bien. Il a d'ailleurs dans son discours en tant que premier président élu dit à ceux qui ont voté pour Donald Trump, eh bien, je vous comprends, c'est pas facile de perdre. Il dit, moi-même, j'ai plusieurs fois perdu parce que il a été tenté déjà deux fois précédemment de se présenter à une élection présidentielle. Et Joe Biden, qui est un centriste, qui a toujours, je le disais tout à l'heure au Congrès, négocié avec aussi les Républicains, s'oppose en rassembleur en chef et veut parler aux Républicains, mais je pense que ça va être un défi immense. On voit, et on le voit, on l'a vu dans votre reportage, qu'il y a des pro-Trump qui n'acceptent toujours pas sa défaite et qui, je pense, vont avoir du mal à l'accepter. Je voyais ce matin, par exemple, le message envoyé par la tante d'une connaissance qui parlait toujours d'une éventuelle guerre civile. Elle disait « Non, mais moi, je n'accepte pas ces résultats. Il y a 4 ans, lorsque les démocrates ont perdu, ils ont tout brûlé. » Alors, comme le disait aussi tout à l'heure Benjamin Haddad, il y a beaucoup de théories du complot qui continuent de circuler. Donc, par rapport au pro-Trump que je suis depuis quelques années, il y en a beaucoup que je pense ne vont pas accepter cette victoire. Alors, les plus modérés, je pense, n'auront pas vraiment de moyens d'action. Ce qui est inquiétant, c'est à plus long terme, des personnes issues de mouvements plus extrêmes comme l'alt-right, dont on a déjà parlé de cette émission, ces personnes pourraient, je pense qu'il pourrait éventuellement y avoir des actes de violence ou des incidents à un moment donné dans le pays.
Un président, deux Amériques, c'est la très belle une, je ne sais pas si on la voit du journal Le Monde aujourd'hui. C'est ça le défi de Joe Biden. Et quand on voit Joe Biden, alors peut-être qu'on le connaît mal encore, Nicole Bacharan, il est effectivement assez tranquille, hein, Sleepy Joe l'appelait Donald Trump. Est-ce qu'il a, il va avoir, j'allais presque dire la rage, le courage et trouver les mots justes pour réconcilier ces deux Amériques-là? Comment peut-il parler à ces Américains qu'on vient de voir dans le reportage? Qu'est-ce qu'il peut leur dire?
Ça va être très difficile parce que la réalité, les faits, ne sont pas les mêmes de part et d'autre. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans le reportage, je vous le dis en toute simplicité, c'est que ce n'étaient pas les supporters de Trump les plus virulents, avec les tatouages, les armes à la main, etc. Non, c'était des gens qui étaient tristes. Ils sont tristes parce qu'ils ont perdu l'élection, ils croyaient en Donald Trump. Il y a beaucoup de motivations économiques, les emplois, des emplois parfois en haut de l'échelle, dans les industries du gaz, etc. Du pétrole, etc. Et puis des emplois modestes. Et c'est vrai que dans les sondages, ils n'ont pas toujours été glorieux, les sondages, mais enfin qui précédaient l'élection, eh ben, l'économie, c'était le point où Donald Trump était devant Joe Biden. Donc il me semble que Joe Biden, quand s'il prend des mesures sur la pandémie qui puisse rassurer, sur l'économie, qui puisse toucher ces gens qui ont peur pour leur emploi, il a moyen peut-être de leur tendre une perche. Maintenant, est-ce que le personnage Biden est le mieux placé? Eh bien, peut-être. J'ai envie de dire peut-être, parce que, comme vous le dites très bien, il ne suscite pas la passion, Joe Biden. Voilà, ce n'est pas Trump, avec les gens qu'il adore. Ce n'est pas Obama. Obama, il y avait un culte de la personnalité autour de lui, qui était même parfois un petit peu inquiétant. Et puis aussi des gens qui le haïssaient violemment. Son côté noir, il faut le dire, intellectuel un peu arrogant. Voilà. Biden, c'est le père tranquille et solide. Et peut-être que c'est ça qu'il faut pour parler au camp d'en face, pour ne pas avoir l'air de quelqu'un dont ils devraient avoir peur, ou quelqu'un qui ne les voit pas. Il vient de la classe ouvrière, il est croyant, il le montre, il est poli, il leur parle avec empathie. Peut-être que c'est cette tranquillité-là qui peut établir un petit pont. Je sais que la tâche sera très difficile, mais rien qu'entre aujourd'hui et hier, on n'a pas de tweet de Joe Biden. Ça calme.
Voilà. Vous allez vous ennuyer, Nicole Bacharan, je vous l'annonce. Benjamin Haddad, on va parler dans un instant de la crise du Covid, mais si on fait un point sur les grandes lignes du programme de Joe Biden et de ses urgences, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Nicole Bacharan? L'urgence, ça va être le plan de relance de 700 milliards qu'il a prévu de mettre en place, une urgence avant tout économique?
Oui, urgence économique et urgence sanitaire. Évidemment, dans la crise du Covid, les deux sont liés. Joe Biden, sa tâche est immense. Il est élu donc, au milieu d'une crise sanitaire qui a déjà tué plus de 230 000 personnes aux États-Unis. Une crise économique sans précédent, un taux de chômage extrêmement élevé, notamment qui a touché beaucoup les minorités. C'est peut-être ce qui explique d'ailleurs qu'on a vu plus d'hommes noirs et hispaniques voter pour Trump que prévu. Une crise raciale, identitaire, avec des divisions profondes dans l'Amérique. On a vu des manifestations depuis cet été. Il en parle régulièrement et l'électorat afro-américain l'avait aidé notamment à remporter la primaire. Donc il le sait, il s'en rappelle. Mais aussi des grands sujets globaux. Il a annoncé qu'il réintégrerait l'accord de Paris sur le climat dès le début. Ce sera peut-être la première décision de son mandat. Il veut reconstruire les alliances, commencer avec l'OTAN et les Européens. La rivalité stratégique avec la Chine. C'était une priorité pour Donald Trump, ça le restera clairement pour l'administration Biden. Donc beaucoup de challenges pour Joe Biden, et c'est vrai qu'il devra à la fois se réconcilier avec cette Amérique de Trump, il lui parle, il essaie d'avoir plus d'empathie dans son langage, mais il devra aussi faire face à une aile progressiste de gauche qui a été incarnée par des personnalités comme Bernie Sanders, Elizabeth Warren, ou la jeune congresswoman réélue de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, qui est très populaire, dans son propre camp, donc avec un risque, si je puis dire, de frondeur dans les prochaines années. Donc ce sera vraiment le grand écart, mais c'est vrai que c'est une personnalité modérée, pragmatique, ce qui est connu comme étant chaleureux, qui a des amis, y compris au Parti républicain à Washington, et donc qui sera peut-être mieux à même de construire des compromis que ce qu'on a vu ces dernières années.
Sonia Dridi, vous qui êtes biographe de Joe Biden, je rappelle que vous avez écrit Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump. C'est le plus vieux président qui arrive à la Maison-Blanche. Il a 77 ans, il aura 78 ans au mois de novembre. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous regardez les images de ce Joe Biden qui va arriver à la Maison-Blanche? On parlait de l'énergie qu'il va falloir pour relever ce défi d'une Amérique déchirée.
Oui, alors c'est assez extraordinaire parce que c'est vraiment le rêve de la vie de Joe Biden depuis qu'il est adolescent d'accéder à la Maison Blanche. Il s'était déjà présenté à une élection présidentielle en 88, en 2008, et c'est à 78 ans qu'il va être investi. Ce que je trouve intéressant, c'est que par rapport à lorsqu'il était vice-président de Barack Obama, depuis il a vieilli, il flotte dans ses costumes, il n'a pas une grande énergie, ça c'est sûr. Même si je pense qu'il a surpris, par exemple lors des débats face à Donald Trump, il tient sur la longueur, il a du répondant. Ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'au départ de cette campagne, c'était quand même le candidat par défaut du Parti démocrate. Pourquoi je pense qu'il peut avoir des chances d'apaiser à très long terme l'Amérique, c'est que, par exemple, quand je parlais à des électeurs démocrates pendant les primaires, beaucoup me disaient « Moi, j'aime beaucoup Bernie Sanders, mais je ne vais pas voter pour lui parce que je pense que si c'est Bernie Sanders, le pays sera encore aussi divisé que sous l'époque, sous le mandat de Donald Trump. » Donc, je pense que beaucoup ont aussi choisi Joe Biden chez les démocrates parce qu'il est rassurant, qu'il peut travailler avec les républicains, c'est un peu sa marque de fabrique. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que finalement, je trouve que c'est presque devenu l'homme de la situation, parce que finalement, quel autre démocrate aurait pu mieux que lui gérer cette situation très tendue avec un pays extrêmement polarisé, avec voilà, beaucoup de haine entre les gens. C'est sûr que si ça avait été Bernie Sanders ou Kamala Harris, on l'a bien vu dans votre reportage aussi, les républicains auraient eu encore plus de mal à accepter ce président démocrate. Donc finalement, aussi à une période où il y a énormément de crises aux États-Unis, économiques, sanitaires, les tensions raciales, l'empathie de Joe Biden, sa compassion, finalement, je pense, lui a bien servi, et beaucoup d'Américains, en fait, même certains républicains modérés, ont besoin finalement d'un candidat, d'un président entre guillemets normal,
qui apaise.
Peut-être, comme on dit, un peu boring, ennuyeux, mais qui apaise.
Oui, son âge, son côté consensuel, son côté tranquille sont finalement devenus des qualités dans le contexte. C'est ce que vous nous expliquez, Sonia Dridi. Celle qui crève l'écran depuis quelques heures, c'est celle qui va sans doute capter l'attention des médias et sur laquelle il va sans doute s'appuyer, c'est Kamala Harris, sa vice-présidente.
Oui, effectivement, elle a réussi son entrée en fonction comme vice-présidente élue, même si c'est une fonction purement officieuse. C'était pas gagné du tout, hein, parce que déjà, on se souvient que Kamala Harris s'était assez violemment opposée lors du premier débat des primaires démocrates à Joe Biden. Lui reprochant, justement, alors ce qui est très intéressant, lui reprochant son passé d'homme de compromis, qui n'avait pas hésité à essayer de dresser des compromis avec des sénateurs ségrégationnistes, donc ce qui n'était pas forcément glorieux pour Joe Biden. Mais surtout, c'était pas gagné, parce qu'il faut rappeler que Kamala Harris a fait une campagne des primaires désastreuse, qui n'est même pas allée jusqu'à la première primaire. C'était rare, c'était surprenant de ce point de vue-là que Biden la choisisse, mais elle a fait depuis un sans faute, depuis qu'elle a été choisie comme colistière. Elle a fait un très bon débat contre Mike Pence, en tout cas elle n'a pas fait d'erreur. Et aujourd'hui, évidemment, elle est beaucoup plus regardée qu'une vice-présidente élue habituelle.
D'habitude, on ne les voit pas, les vice-présidents.
Oui, mais là, il y a quand même, j'allais dire, un éléphant dans la pièce, comme disaient les Américains, c'est quand même l'âge du capitaine. On sait très bien que Joe Biden, c'est quand même un homme qui, non seulement a 78 ans dans deux semaines, mais a quand même déjà fait une double rupture d'anévrisme en 1987-88, donc un très gros problème de santé. Des questions se posent naturellement, et donc elle doit montrer à chaque instant qu'elle est prête à prendre à n'importe quel moment. Et pour l'instant, en plus, elle fait quelque chose que lui n'arrive pas à faire, c'est qu'elle donne de l'énergie, elle fait un trait d'union avec les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux grâce à sa maîtrise de la communication. Et elle fait le trait d'union, j'allais dire, entre la vieille garde démocrate et les jeunes qui sont revenus vers Joe Biden. Peut-être qu'elle a contribué d'ailleurs, on le voit dans les sondages sortis des urnes. Et pour l'instant, c'est très important ce rôle de trait d'union. Et puis, il faut quand même le rappeler, première femme à arriver aux États-Unis à un des deux postes de l'exécutif. On rappelle qu'il y a eu 104 personnes sur un ticket de parti républicain ou démocrate depuis 1920, depuis que les femmes ont le droit de vote. Il n'y avait eu que 4 femmes, et c'est la première à accéder à la vice-présidence. C'est quand même historiquement, c'est très important.
Vous voulez dire un mot très vite?
Oui, mais c'est une star quand même. Je m'adresse à vous, Caroline, à Sonia. Je veux dire, en tant que femme, voilà, au-delà des appartenances politiques, elle est magnifique. Maintenant, le fait qu'on lui fasse le procès sans cesse d'extrême-gauche, c'est vraiment de la propagande. Elle se situe à peu près au centre du Parti démocrate. Mais pour le côté Trump, dire « elle est d'extrême-gauche », c'est aussi rappeler « elle est noire ». Elle n'est pas comme vous, c'est l'ennemi. Donc, mais réellement, en matière économique et sociale, elle est à peu près au centre du Parti démocrate.
Allez, Joe Biden en a fait sa priorité. Il a mis en place une cellule de crise sur la gestion du Covid, naturellement, pour préparer un plan national pour son arrivée au pouvoir au mois de janvier. Certaines zones, comme la ville de McAllen, au Texas, ont été particulièrement touchées. 2000 morts sur 36 000 cas. Ici, la population précaire en veut beaucoup. Vous allez l'entendre à Donald Trump. Reportage au Texas. Romain Besnénou et Stéphane Lopez.
À McAllen, tout au sud du Texas, le football est sacré. Alors quand l'équipe des Warriors a pu retourner sur le terrain après des semaines de confinement, ce fut un vrai soulagement. Au Texas, on dit qu'après Dieu, il y a le foot. On doit s'adapter et rester positif. On doit le faire pour tous ces jeunes qui subissent l'épidémie.
On ne peut pas tout fermer et s'arrêter de vivre.
Ça a été très dur ici. On a dû rester enfermé pendant longtemps avant de pouvoir rejouer. La pandémie nous a beaucoup affectés.
Cette région frontalière avec le Mexique est l'une des plus touchées par le Covid de tous les États-Unis. Un taux de mortalité de 6%. On dénombre ici 2000 morts pour 36 000 cas. Un tsunami pour ce territoire pauvre et à majorité hispanique où le virus n'a épargné aucune famille. Les églises fermées, ce mausolée permet aux habitants de se recueillir.
Mon oncle est mort du Covid. Ça a été très rapide et brutal.
Des membres de ma famille sont morts du Covid, des voisins aussi. Certaines personnes ont dû aller au Mexique pour être soignées moins cher, mais la frontière a finalement été fermée.
À McAllen, des familles entières ont été décimées. Mélissa, une infirmière de 49 ans, a survécu à la maladie. Mais elle a perdu de nombreux proches.
Ma cousine est morte du Covid. On a aussi enterré ma sœur, qui est morte du Covid. Elle avait 36 ans et souffrait du diabète. Ma tante est morte le 12 octobre et ma mère la semaine suivante. J'ai pu passer les derniers moments de sa vie avec ma mère. Je lui tenais la main, je priais pour qu'elle puisse partir en paix.
Dans cette région du Rio Grande, 40% des habitants n'ont pas d'assurance maladie. C'est 4 fois plus qu'au niveau national. Les taux d'obésité et de diabète sont très élevés, favorisant ainsi la virulence du Covid.
Si vous allez aux urgences, ça peut vous coûter 3 000, 4 000 minimum. Pour une visite chez le docteur, vous allez payer entre 80 et 150 $. Imaginez, avec cette somme, vous pouvez aussi acheter à manger pour toute votre famille, pour toute une semaine.
La cousine de Mélissa, Maribel, a elle aussi perdu sa mère et son mari. Elle ne supporte pas la façon dont la crise sanitaire a été gérée.
Je n'ai pas aimé quand Trump a dit que le virus avait disparu. Vous savez ce qui a disparu ? Les vies humaines ont disparu, pas le virus.
Au sud du Texas, l'épidémie n'est effectivement pas terminée. Toutes les chambres de cet hôpital équipées de panneaux d'aération blancs sont occupées par des patients Covid. Sous leurs fenêtres, certains s'en remettent entièrement à Dieu pour conjurer le fléau.
Il n'y a aucun traitement contre le Covid-19. Seul Dieu peut nous sauver.
Plus pragmatique, le docteur Ivan Melendez a vécu l'hécatombe de près à l'hôpital. Il est encore choqué par le comportement du président Trump lorsque celui-ci est tombé malade.
J'ai été malade. J'ai perdu un oncle, un professeur de 35 ans il y a 2 jours. J'ai perdu 5 docteurs, 28 infirmières et je ne sais combien de patients. Alors pour nous, le comportement de Trump a été incompréhensible. Très peu de gens peuvent avoir accès à un traitement rapide comme lui. Il aurait dû être plus humble, plus réservé et plus empathique. Beaucoup de gens ici se sont sentis offensés en le voyant pavoiser et dire qu'il avait vaincu le virus, que ce n'était pas grand-chose et qu'il ne fallait pas en avoir peur.
La région de McAllen est l'une des rares au Texas à avoir voté pour le candidat démocrate avec près de 60% des voix. Joe Biden, qui promet d'élargir l'Obamacare à davantage d'Américains et de baisser le coût des médicaments.
J'en profite pour remercier toutes les équipes de C'est dans l'air qui, depuis des semaines, nous aident à mieux comprendre cette Amérique et qui sont encore sur le terrain. Cette question, que peut faire Joe Biden pour juguler la pandémie puisque ce sont les gouverneurs qui, au final, décident pour chaque État ?
Alors déjà, il peut dès maintenant utiliser une chose, c'est les discours. Il va le faire aujourd'hui, s'adresser aux Américains et leur recommander notamment de prendre les choses au sérieux et de porter le masque.
C'est ce qu'il vient de dire à l'instant.
Voilà, exactement. Merci Joe. Mais au-delà de ça, il faut qu'il soit au pouvoir, évidemment. Et là, il y a des choses qu'il peut faire qui dépendent du fédéral. Il peut décider ce qu'on appelle un mandat sur les masques. Donc le masque obligatoire dans les bâtiments fédéraux, pour les employés fédéraux, dans les transports entre les États. Mais il ne peut pas obliger les Américains de partout à porter le masque. Ça dépend des gouverneurs. Il va mettre en place une commission sur la production de tout le matériel nécessaire, tout le matériel hospitalier nécessaire, une production de crise, ce qui lui donnera le droit. C'est quelque chose qui date de la date de la guerre de Corée, la loi là-dessus, qui lui donne le pouvoir de demander à des usines de mettre en priorité la production du matériel nécessaire pour la lutte contre la maladie. Et il annonce la mise en place, mais tout cela, évidemment, ne fonctionnera qu'à partir du 20 janvier, d'un groupe copié sur ce que Franklin Roosevelt avait fait pendant le New Deal et qui sera dédié à la gestion des tests et à la généralisation des tests. Donc il pourra faire beaucoup de choses à partir de janvier, mais en accord avec les gouverneurs pour l'essentiel. Et dès maintenant, il peut influencer l'opinion.
Benjamin Haddad, sans le Covid, est-ce que Donald Trump aurait gagné cette élection ?
C'est une question vraiment intéressante. Hein, et on l'a vu sur les réseaux sociaux, certains se sont posés cette question, puisqu'évidemment, hein, le Covid a aussi détruit tout le bilan économique de Donald Trump, qui allait être son principal argument de campagne. Il faut voir qu'il y a un an, bénéficiant d'une conjoncture économique favorable, mais aussi de certaines mesures de dérégulation et de baisse d'impôts, Donald Trump pouvait revendiquer un bilan économique qui était très bon, avec un taux de chômage autour de 3,5%, un taux de croissance assez important, donc une Amérique qui se portait bien, malgré des inégalités profondes que votre reportage vient de révéler. Hein, ces inégalités ont été mises en exergue par la crise du Covid, hein, l'accès aux soins, les inégalités économiques. Mais c'est vrai que Donald Trump, et c'est pour ça qu'il a été dans le déni de la crise du Covid depuis le début, s'opposant à toute mesure de confinement, s'opposant à toute mesure forte, puisqu'il voulait essayer de maintenir l'économie à flot. Alors, un petit bémol quand même là-dessus. Hein. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'avec son talent politique, Donald Trump a essayé de retourner cette affaire du Covid et en faire aussi un argument de campagne et un argument de clivage avec Joe Biden. Quand on voit les scores, ceux qui ont voté parce qu'ils étaient essentiellement inquiets de la situation sanitaire, comme les gens qu'on a vus dans votre reportage, ont voté pour Joe Biden. Ceux qui s'inquiétaient de la situation économique et de l'impact des fermetures, des confinements, ont voté pour Donald Trump. Donc il en a fait là aussi hein, un enjeu identitaire. Le port du masque, on le sait, est devenu vraiment un enjeu partisan, de façon d'ailleurs un peu grotesque et dangereuse. Hein, les Républicains refusant de porter des masques pour, de cette façon, montrer leur virilité, leur force. On est plus fort que le Covid. On se rappelle quand même que le président lui-même et la plupart de ses collaborateurs ont été malades. Hein, le mois dernier, ça a été un des faits marquants de la campagne en octobre. Donc là, on peut espérer qu'on écoutera les experts et qu'on aura un discours beaucoup plus apaisé et responsable sur le sujet. Et notamment, il n'y avait aucune raison, on le sait, hein, d'opposer la question économique et la question sanitaire. Mais il avait réussi à en faire un argument politique dans cette campagne.
Et Joe Biden a décidé de s'attirer les services d'Anthony Fauci. C'est ça, hein, le conseiller santé de Donald Trump.
En fait, de manière plus vaste, aujourd'hui, il a annoncé une nouvelle task force. C'est-à-dire il a formé un nouveau groupe d'experts, qui sont des médecins, 13 médecins, donc qui doivent l'assister justement pour reconfigurer toute la politique Covid. Et clairement, c'est une façon de dire, c'est une de ses premières mesures comme président élu, et c'est une façon de dire, comme il avait dit, je redonne la priorité à la science et à la médecine. C'était son leitmotiv à la fin de campagne. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on a assisté à quelque chose quand même d'inédit dans l'histoire des États-Unis, c'est que des grandes revues scientifiques et médicales, sortant de leur neutralité, ont appelé à voter pour Joe Biden.
The Lancet, notamment.
Voilà, pour justement dire place. Et là, aujourd'hui, task force, alors des médecins avec des CV impressionnants, vraiment des têtes, et auxquels il a demandé d'ores et déjà de lui préparer des guidelines, des directives, pour que le 20 janvier, tout soit prêt et qu'on puisse lancer une nouvelle politique sur la Covid-19.
Et nous revenons maintenant à vos questions. À ce stade, est-on sûr que Joe Biden est bien le 46e président des États-Unis, Sonia Dridi?
Alors, je pense que oui. Il a été déclaré vainqueur par les médias américains, mais dont l'agence AP, hein, qui est reconnue quand même pour son objectivité, on va dire. Et surtout, je pense que même s'il y a des recours juridiques et des recomptages, il y a, les chances sont très infimes que finalement cela impacte le nombre de grands électeurs. Joe Biden a une bonne marge, et puis même des républicains le disent, encore une fois, il n'y a pas de preuve de fraude. Donc même si Donald Trump voulait saisir la Cour suprême, et même si cette Cour suprême penche à droite, il n'est vraiment pas sûr qu'elle se saisisse du cas.
C'est un des arguments de Donald Trump de dire, c'est pas aux médias de dire qui a gagné la présidentielle. On a beaucoup de questions de cet ordre-là ce soir pour dire, bah oui, c'est vrai, au fond, ce sont pas les médias qui vont décider.
Exactement, et c'est très intéressant parce qu'en fait, on oublie que c'est exactement la même chose en France. À 20h, le soir du deuxième tour des présidentielles, les médias vous montrent le visage de celui qui a gagné le scrutin présidentiel.
Les scrutins du ministère de l'Intérieur n'arrivent que plus tard.
Exactement. Ensuite, c'est le ministère de l'Intérieur, une fois que les comptes sont terminés. Mais les médias, le soir même, elles font des projections à partir des sondages de sortie des urnes, et elles peuvent dire, si la marge n'est pas minuscule, en France, ça n'a jamais été le cas, voilà le président. Mais c'est exactement pareil aux États-Unis, et les médias américains, cette fois-ci, ils ont été hyper prudents, parce qu'en 2000, dans la même nuit, ils ont annoncé la victoire d'Al Gore, puis la victoire de George W. Bush, puis Too Close to Call, et ça a duré ensuite 5 semaines. Donc là, ils ne se sont pas précipités. Ils ont attendu 4 jours, effectivement, comme Sonia le rappelait, Associated Press, qui donne un peu le « là » des médias sérieux, a fait l'annonce. Les autres sont arrivés très rapidement derrière, parce qu'il n'y a pas de doute. Voilà, il n'y a pas de doute.
Y compris les médias qui étaient plutôt pro-Trump.
Exactement. Voilà. Fox News a attendu, je crois, 5 à 6 minutes avant de faire comme les autres, parce que c'est la réalité.
Corentin Célin.
Je voudrais juste rajouter sur cette question qui est fondamentale. Associated Press appelle, dit, projette les présidents depuis 1848. Ils ne se sont jamais trompés, il n'y a jamais eu d'erreur. Évidemment, ça peut choquer qu'aujourd'hui, et surtout, on comprend, les partisans de Trump, ils ont tout à fait le droit d'être partisans de Trump, ils sont tristes, ils avaient envie que leur candidat gagne. Mais ça a toujours fonctionné comme ça. Il y a 4 ans, donc je rappelle juste, dans la nuit du 8 au 9 novembre, Donald Trump, il a été projeté président par les médias, par les mêmes médias, et dès le 10 novembre, Obama le recevait comme président élu, alors que les dépouillements se poursuivaient partout, qu'il n'y avait pas de vote certifié. Ça s'est toujours passé comme ça, et d'ailleurs, on évoquait l'élection de 2000, Bush-Gore, on s'en souvient, justement, la seule fois où ça n'a pas fonctionné, c'est parce que les médias ne savaient pas projeter en Floride en 2000 qui était vainqueur. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut trouver ça bizarre, étrange, mais ça a toujours fonctionné comme ça.
Y compris pour l'élection de Donald Trump, exactement. Il y a 4 ans. Trump qui va jouer au golf, est-ce bien sérieux? Alors, il a souvent fait ça, Nicole Bacharan. Il s'est souvent rendu au golf dans les moments où il y avait une grande tension et continuait à avoir son propre agenda.
Alors, à sa décharge, il faut quand même dire que tous les présidents américains jouent au golf, et même ceux qui n'y jouaient pas beaucoup avant, ils y jouent parce qu'ils sont enfermés à la Maison-Blanche. Et que quand même, le terrain de golf, c'est là où il y a de l'espace, et même si la protection est là et en fait l'enferme dans une bulle, ils ne s'en rendent plus compte. Donc on l'a vu Bill Clinton jouer au golf tant et plus, Barack Obama idem tant et plus, George W. Bush tant qu'il ne s'était pas fait trop mal au dos. Donc d'accord. Voilà, ce n'est pas forcément le signe d'un mépris particulier. Mais c'est vrai que dans les jours de tension où nous sommes, ça a quand même un côté, disons, désinvolte qui peut apparaître un petit peu choquant.
A-t-on le début du commencement d'une preuve qu'il y a eu fraude, Benjamin Haddad?
Non, c'est tout le problème, hein. C'est ce qu'on reproche au camp Trump, c'est pour l'instant beaucoup d'accusations qui sont infondées. On a vu quelques accusations, alors on parlait d'un logiciel dans le Michigan, dans un comté, qui avait donné 6000 voix pour Biden avant de les corriger pour aller vers Trump. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que s'il y a des erreurs, elles ont été corrigées, justement. Encore une fois, il y a un processus, les équipes de Trump peuvent aller devant les tribunaux. Il faut rappeler d'ailleurs que ce n'est pas la Cour suprême. Hein. La Cour suprême des États-Unis, c'est seulement la dernière instance. D'abord, il faut passer devant les tribunaux locaux, des États, et s'il y a un litige qui n'arrive pas à être résolu au niveau de l'État, ça remonte jusqu'à la Cour suprême. Donc au final, il y a assez peu de chances de voir la Cour suprême devoir trancher un litige. Donc il y a un processus juridique encadré, mais pour l'instant, à part des théories du complot qui circulent sur les réseaux sociaux et qui sont alimentées par des milieux d'extrême droite, on voit très peu d'accusations fondées. Et c'est pour ça que les dirigeants du Parti républicain, pour l'instant, ne soutiennent pas Donald Trump dans cette démarche.
Il y a combien de voix d'écart entre les deux, Benjamin Haddad ?
Alors, ça dépend où on regarde. Si on regarde le score national, pour l'instant, on parle, je crois, de plus de 4, presque 5 millions de voix d'écart. Ça pourrait se creuser hein, quand on continue à compter les voix en Californie. Alors, on sait évidemment que aux États-Unis, ce sont les États clés, le collège électoral qui compte. Et là, c'est vrai que le scrutin a été très serré, quelques milliers de voix près, quelques dizaines de milliers de voix près, dans le Michigan, en Pennsylvanie ou en Géorgie. Donc, on peut comprendre hein, qu'il y ait des interrogations. Après, comme le répétait Nicole Bachara tout à l'heure, effectivement, encore une fois, le vote national a été remporté par Joe Biden. Mais surtout, cette élection, elle ne se fait pas seulement sur un État. Elle se fait sur plusieurs États. Le collège électoral va être assez largement en faveur de Biden. Donc, imaginons un scénario peu probable où un État comme la Géorgie finalement bascule dans l'autre sens, ça ne suffira pas à renverser le collège électoral.
Jusqu'au 20 janvier, qui contrôle Trump et qui peut l'empêcher de faire n'importe quoi, comme déclencher une guerre, par exemple ?
Je ne sais pas qui contrôle Trump, mais Trump reste pleinement président des États-Unis. Jusqu'au 20 janvier, le président, c'est Trump.
Si Trump refusait de quitter la Maison-Blanche, pourrait-on le déloger manu militari ?
Oui.
Bon, ce qui va se passer après.
Les services de protection des hautes personnalités, je ne pense pas qu'on en arrive là.
Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h30. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée.